Bonjour à tous et merci pour votre invitation qui me donne le plaisir de vous retrouver cette année encore. Lourde tâche que d'inaugurer une université d'été intitulée « Médias et rencontres humaines ». On le sent bien, les médias sont censés conduire, favoriser, faciliter la rencontre humaine. Et pour autant, il y a parfois quelques inquiétudes. Est-ce que les médias, ce monde hyper médiatisé aujourd'hui, ne fait pas obstacle, au contraire, à la véritable rencontre humaine? Alors j'ai intitulé cette toute première conférence « Homo numericus ». Y a-t-il aujourd'hui une mutation de l'humain? Est-ce que l'hyperconnexion fait muter l'homme? Est-ce qu'il induit une mutation anthropologique, philosophique? Alors ce matin, on va simplement esquisser quelques pistes de réflexion et il faudra bien la semaine, toutes les autres conférences pour compléter un panorama qui ne fait que s'amorcer. La question, elle est toute nouvelle. Le paysage, il s'est considérablement modifié en moins de 10 ans et nous sommes au tout début du questionnement. Ce matin, je ne pourrai pas vous apporter de réponse. Simplement avec vous, peut-être poser quelques points d'attente, quelques questions, quelques points d'interrogation. Une société nouvelle est en train de se construire. Comment la penser? Qui suis-je à l'heure de l'hyperconnexion? Vous connaissez la phrase de Descartes, « Je pense donc je suis ». Est-ce qu'aujourd'hui je suis connecté donc je suis? Et alors si je ne suis pas connecté, est-ce que je suis encore? Quelle est-elle cette nouvelle condition numérique qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle de vos enfants, de vos petits-enfants? Est-ce qu'il y a deux mondes, un monde virtuel et un monde réel? Résolument non, parce que le virtuel est devenu notre réalité. Alors il y a les optimistes pour qui c'est un potentiel, une chance à saisir. Et j'ai senti ce vent d'optimisme dans votre titre, « Médias et rencontres humaines, chance, risque et défi ». Alors on va essayer de pointer les chances. Et puis il y a aussi les pessimistes, ceux qui sentent qu'il y a parfois quelques risques, quelques dangers. Alors moi ce matin, je ne vais pas m'apesantir sur les dangers, surtout que j'ai vu que M. Boulanger, jeudi, psychiatre, psychanalyste, va justement mettre le doigt sur cet usage biaisé des nouveaux médias. Et il sera beaucoup plus compétent que moi pour en parler de manière existentielle, puisque ce sont des situations qu'il rencontre certainement dans sa pratique thérapeutique. Alors pour nous aujourd'hui, comment poser le problème? Aujourd'hui, Internet, qui est un peu le point d'orgue du numérique, a bouleversé notre manière de vivre, notre manière de communiquer, de nous informer, d'acheter, de vivre tout simplement. Au XVe, au XVIe siècle, le livre de Gutenberg avait fait basculer la civilisation dans une toute nouvelle ère. On peut dire aussi que le chemin de fer au XIXe est cette nouvelle technique qui nous a fait entrer dans une phase nouvelle. Aujourd'hui, Internet nous a bien fait changer à son tour de civilisation. Cette civilisation, elle est faite de quoi? De vitesse, d'ouverture, d'instantanéité, tout va très vite. Et c'est parfois ça qui est difficile à vivre, tout va très vite, en temps réel. Le virage a été pris en 2005, à l'heure du haut débit, quand les connexions se sont considérablement accélérées. Maintenant, nous avons tous, ou presque, Internet sur notre smartphone, ce petit téléphone ordinateur qu'on transporte avec soi. Et à peu près toutes les minutes, on peut recevoir une actualité, une news. On sait que Sarkozy est sorti de garde à vue à minuit 22. C'est très intéressant, c'est stimulant. La Belgique a gagné contre les États-Unis, ce qui était aussi une considérable nouvelle que j'ai appris avec beaucoup de plaisir ce matin. Aujourd'hui, il y a une génération nouvelle, celle que vous connaissez bien, les 12-25 ans, qui est celle qu'on appelle la génération mutante, justement parce qu'il y a cette mutation anthropologique. Les 12-25 ans ne vivront pas, ne vivent pas comme nous, comme les générations d'avant. Il y a comme une rupture, et c'est aussi cette rupture qu'on va essayer de penser. On parle même plus de société de l'information, tellement c'est devenu banal. Évoquer une économie numérique paraît évident. Tout le monde est équipé d'un ordinateur, d'un smartphone, de clés USB. Certains d'entre nous, la plupart, ont appris à chatter. à utiliser Facebook, Skype, pour appeler les enfants, les petits-enfants à l'autre bout du monde, partager des photos, des vidéos sur YouTube. On consulte Google pour n'importe quoi, pour consulter la météo. J'ai comme ça appris ce matin avec une heure d'avance qu'il ne pleuvrait peut-être pas avant midi à Castanet-Tolosane, ce 2 juillet. On réserve des voyages, on prépare son trajet autoroutier, on anticipe les bouchons, les accidents sur la route. Alors cette phase descriptive est confortée par quelques chiffres très significatifs. Et je crois qu'avant de parler des mutations anthropologiques, il faut prendre conscience du phénomène à l'échelle mondiale. En 2013, les Américains ont passé plus de 5 heures par jour sur Internet en moyenne. Plus de 5 heures par jour. En France, le temps moyen passé sur Internet en 2013 est de 4 heures. Il était de 2 heures en 2011. À l'échelle mondiale, il y avait 23 000 sites Internet en 1995. Il y en a 600 millions en 2013. Alors, à nuancer, il y a 175 millions de sites actifs. Mais il y a quand même eu 600 millions de sites créés jusqu'en 2013. Et le chiffre le plus massif, c'est celui-ci. En 2008, le nombre d'internautes dans le monde était d'un milliard, un milliard deux. En 2014, il est de 2,5 milliards. Il y a 8 nouveaux internautes par seconde. Déjà depuis que j'ai commencé à parler, je pense qu'il y a à peu près 800 nouveaux internautes dans le monde. L'accès à Internet mobile double chaque année. Il y a 144 milliards d'emails par jour. 70% d'entre eux sont des spams, c'est-à-dire des communications aussi à visée publicitaire, commerciale. Il y a 380 milliards de photos mises en ligne aux États-Unis en 2012. Et on estime à 432 millions le nombre de pirates. Ce dernier chiffre, on y reviendra, c'est pour montrer qu'Internet n'est pas un lieu neutre. Et à ceux qui ont déjà été volés sur Internet, à qui on a usurpé parfois des codes d'accès ou vidé un compte en banque, savent bien que le virtuel est bien réel. On a parfois pointé la fracture numérique en disant que Internet était l'apanage des pays riches et que les pays pauvres étaient à la traîne. Cette fracture tend à se résorber. Il y a ce qu'on appelle un rattrapage numérique lié au phénomène du développement du mobile dans les pays africains, et on en reparlera. Les gens se connectent à partir d'un téléphone portable. Les entreprises de téléphonie ont envahi ces marchés-là. Et il n'est pas rare du tout de recevoir des mails et des SMS de la part de, par exemple, moi, de mes étudiants africains. C'est devenu un mode de communication privilégié. On leur écrit sur leur smartphone. Voilà, tout ça pour dire, en guise d'introduction, que la croissance, elle est exponentielle. Et le phénomène tellement massif que le philosophe, l'anthropologue, le théologien ne peuvent pas essayer de le penser. Simple rupture technologique, comme on le croyait il y a encore 10 ans, ou changement radical de civilisation. La question, quand vous allez dans une librairie, parce que parfois on va quand même encore dans les librairies, on ne se contente pas d'Amazon sur Internet, quand on va dans une librairie pour interroger le rayon média, on se rend compte que la question, elle intéresse tous les champs disciplinaires. Les économistes, les juristes, les sociologues, les scientifiques, les politologues, les pédagogues, etc., etc., tous les pans de l'humain sont concernés par la révolution numérique. Le numérique, il se situe à l'intersection de l'individuel et du collectif, nous y reviendrons. Il a modifié la vie des foyers, mais aussi celle des organisations, et bousculé les frontières entre le privé et le public. Vous le savez, beaucoup de travailleurs aujourd'hui ont du mal à mettre cette frontière. Quand ils rentrent à la maison le soir, le travail les poursuit jusque dans le foyer. Et je sais que ça modifie beaucoup la vie des familles. Ça veut dire que sur le plan philosophique, Internet interroge le rapport que nous avons à l'espace et au temps, le rapport aux autres et le rapport à soi. Et comme le dit un titre déjà très célèbre, l'intime et le lointain. On attendait la révolution numérique sur le terrain de l'économique et du commerce, et paradoxalement, c'est sur un autre terrain qu'elle est arrivée. C'est celui du champ culturel, mais champ culturel au sens large, c'est-à-dire celui de la création et de l'intelligence. Et c'est ce point qu'on va développer le plus particulièrement. Le changement, il est sociologique, mais il marque surtout une anthropologie nouvelle. Je vous propose donc ce matin une démarche heuristique, comme on dit, c'est-à-dire qui part de la pratique. Vous l'avez compris, il ne faut pas penser Internet comme un objet en soi, une question, il faut penser ces usages que nous avons d'Internet. Commencer par la pratique, pour découvrir en deuxième point les questions philosophiques et esquisser quelques questions théologiques. Est-ce que le théologien a quelque chose à dire de ce phénomène nouveau ? Peut-il le dire ? Nous sommes ce matin dans une université chrétienne d'été. Dieu sur Internet a-t-il une place ? Est-il présent dans ce phénomène nouveau ? Est-ce que c'est complètement étranger à Dieu ? Et si ça ne l'est pas, comment le penser ? Quelle est l'incidence théologique du phénomène ? Je consulte mon smartphone pour vérifier l'heure. Phénoménologie, ça veut dire qu'on va essayer de décrire, mais de décrire de manière un peu analysée, le phénomène, l'usage, les usages d'Internet. Et je voudrais commencer par un récit. Un récit, il y a quelques mois, au mois de janvier, je crois, j'ai reçu un appel sur mon répondeur d'un certain Jean-Marc Guéraud. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je me suis demandé pourquoi le Premier ministre essayait de m'appeler. Puis j'ai compris qu'il s'agissait en fait de mon frère dominicain, curé de Castanette au Lausanne. Et il m'invitait à participer à une université d'été, la 7e édition, au mois de juillet, du côté de Toulouse. Habitant Bruxelles, et au mois de janvier, cette invitation m'a apporté comme un rayon de soleil. Alors j'ai immédiatement pris mon smartphone, consulté mon agenda électronique, vérifié ma disponibilité et répondu par mail que je serai bien des vôtres ce matin, 2 juillet 2014. Par retour, on m'a répondu et j'ai reçu de UCEC le programme et les lignes directrices de cette toute nouvelle université d'été. J'ai tout de suite été sur Internet, vérifié les vols pour Toulouse, comparé les prix, pris le billet le moins cher, bloqué la réservation, configuré un rappel sur mon téléphone pour bien faire mon enregistrement en ligne hier avant mon départ, imprimer mon e-billet, envoyer un SMS à Jean-Marc pour lui dire que tout était OK, et il m'a répondu OK par retour. Pas de déplacement à l'agence de voyage, pas de chèque émis, pas de courrier postal, des frais de télécommunication tout à fait réduits, insignifiants, une instantanéité et une communication en temps réel. Puis est venu le temps de la préparation de la conférence proprement dite, car j'ai préparé. Premier réflexe, j'ai voulu faire un tour d'horizon du sujet, le numérique, l'Internet, les nouvelles technologies. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée sur mon ordinateur. Je ne fais pas de publicité, hein, ne filmez pas la marque. Je suis allée sur Google et j'ai tapé numérique, Internet. J'ai lu avec attention les pages Wikipédia sur le sujet. J'ai sélectionné les noms qui m'intéressaient de chercheurs, les publications. J'ai googlisé, comme on dit, ceux qui m'intéressaient le plus pour savoir qui ils étaient, étant de mon champ de recherche. Puis je suis allée sur Amazon pour commander les livres qui m'intéressaient le plus. Bien sûr, j'ai choisi les e-books, pas les livres papier. Et ainsi, en quelques minutes, sur mon smartphone toujours, j'ai reçu les e-books et j'étais prête à commencer à attaquer le sujet. Cette expérience personnelle, je suis convaincue que vous l'avez fait et que vous la faites chaque jour, elle est potentiellement celle de tous les hommes. Cette révolution numérique, nous n'y pensons même plus tellement elle est simple et elle concerne tous les hommes, même ceux qui habitent à n'importe quel coin du monde. Elle n'est pas réservée à une élite. Il y a différents usages d'Internet dans ce que je vous ai décrit. Ça va du billet de train à la météo, à la recherche de livres, à l'accès à des contenus extrêmement privilégiés. J'ai écrit une thèse il y a quelques années, quelques mois, et j'ai pu consulter l'ensemble des archives de l'ONU à New York sans jamais me déplacer. Et dans certains cas, j'ai été la première à consulter certains microfilms qui avaient été numérisés. J'étais la première à ouvrir des archives alors que j'étais à l'autre bout du monde. Voilà une révolution. Mais ces usages, ils sont d'inégale valeur anthropologique. Tous ne sont pas de la même valeur. Et je vous propose, après cette brève description, d'en établir une première typologie, une première classification. Voilà, je vérifie que vous pouvez suivre sur l'écran. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'aspect ludique et imaginaire. Et ça, c'est peut-être ce que vous... Si certains d'entre vous ont des petits-fils, des petits-enfants, ceux qu'ils connaissent le plus, il y a beaucoup de jeux de rôle, c'est tout le thème des avatars. Il y a tout le domaine de la communication, c'est celui qu'on pratique le plus, la téléphonie par Internet, la visioconférence, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Il y a l'usage commercial, je l'évoquais tout de suite, le e-commerce qui suppose aussi toute une partie publicitaire. Il s'agit de se mettre en valeur ou de mettre un produit en valeur et cet usage commercial croise avec l'usage des réseaux sociaux. Il y a tout le champ des moteurs de recherche, Google, et le monopole de Google. Il y a l'usage géographique, le GPS, la géolocalisation, en voiture, en avion. La culture, tout le champ culturel est vraiment considérablement modifié. La musique en ligne, les films en streaming, les concerts diffusés, les conférences en ligne, l'édition numérique. J'ai pris avec moi un livre sur les pratiques de l'édition numérique. Les bibliothèques, on y reviendra. Le champ de l'actualité, j'évoquais le match de foot Belgique-USA. L'actualité, la TV connectée, les news en temps réel sur chaque smartphone. Tout le champ de l'enseignement supérieur, qui est celui que je connais le plus, les études en ligne. Étudier, se former en ligne, obtenir un diplôme, etc. Dans tous ces usages, il y a différentes valeurs. Il y a de l'éphémère et il y a du durable. Vous le sentez. Il y a du superficiel, Facebook par exemple, et une réalité beaucoup plus profonde, obtenir un diplôme de médecin grâce à des études en ligne. Où est-ce le plus palpable? Je retiens un domaine précis, celui du champ, le champ du savoir, de l'intelligence. Là, s'est opéré un véritable saut qualitatif, qui est sans doute la marque de la révolution numérique. Alors si on prend un exemple, celui des bibliothèques en ligne, par exemple Gallica, vous pourrez aller voir. Gallica, c'est un grand projet développé par la Bibliothèque nationale de France. Vous y trouvez des millions de livres accessibles en ligne. Vous n'avez pas une bibliothèque numérisée. Vous avez l'ensemble des bibliothèques du monde entier numérisées. On peut lire en ligne des philosophes entiers. On trouve en quelques clics des traductions complètes et nombreuses et variées de la Bible, par exemple. Un jour, j'ai fait l'expérience de chercher un passage d'Héraclite, et en 2 secondes, j'avais accès à son œuvre complète, traduite par la philosophe Simone Veil quelques décennies plus tôt. C'est quand même beaucoup plus qualitatif qu'un tweet de Nadine Morano. Alors, ce phénomène qu'on sent très qualitatif dans le champ de l'intelligence dit quelque chose de cette transformation profonde de l'humanité. Il y a là un modèle nouveau, un paradigme, comme on dit, qui progressivement façonne nos manières de penser. Vous ne pensez plus de la même manière si vous avez accès à des sources du monde entier en temps réel que si vous avez simplement 3 livres à votre disposition que vous avez mis 2 mois à aller trouver, à aller chercher. Vous avez un accès immédiat par tous les hommes de n'importe quel coin de la planète et avec une diversité de langues. Et cela aussi change considérablement la donne. Il y a une accumulation sans précédent du savoir et une croissance exponentielle. Nous le savons, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est précisément sa pensée, sa capacité à s'exprimer, à mettre des mots. Et c'est précisément l'exercice de l'intelligence qui est le plus affecté par la révolution numérique. Parce que l'humanité, elle peut se penser aujourd'hui comme un tout. Et chacun des membres accède au patrimoine intellectuel accumulé depuis des siècles. Ce qui était réservé à une élite, ou quelques élites, c'est aujourd'hui accessible de n'importe quel cybercafé. Il n'y a même plus besoin de matériel. J'ai des étudiants en Afrique qui vont une fois par mois au cybercafé avec une clé USB qui se connecte quelques instants et qui récupère un nombre considérable de données, de contenus auxquels ils n'auraient jamais accédé il y a encore quelques années. Alors, quelles sont les conséquences de cette transformation, de ces usages? Premièrement, la première conséquence, elle est politique, sociale. Cette immédiateté de la communication par les réseaux sociaux, notamment, a provoqué des révolutions, le printemps arabe, dans des pays qui n'avaient jamais connu cela avant. Le simple appel de quelques militants sur Facebook a déclenché des regroupements collectifs qui sont allés jusqu'au renversement du régime. Et dans plusieurs pays. Les campagnes politiques sont profondément modifiées par les réseaux sociaux et c'est devenu aujourd'hui une méthode incontournable pour rejoindre les électeurs. la question de la censure se pose tout à fait différemment. Les pouvoirs autoritaires, vous pouvez penser à la Chine, cherchent à brider l'accès à Internet et brident les réseaux sociaux, interdisent certains mots-clés. Quand vous allez dans ces pays-là, vous n'êtes pas sûr que quand vous passez des emails, ils seront véritablement envoyés, reçus. Cette question nous mène à nous interroger sur le lieu du véritable pouvoir. Où est-il aujourd'hui à l'heure du numérique ? Les politiques sont très désarmées face au numérique. Google peut censurer, mettre en valeur certains sites. Mais qui contrôle Google ? Pour le moment, personne. Quels sont les critères de Google ? Qui devrait avoir le pouvoir de les définir ? Si vous créez votre site internet, votre commerce en ligne, vous pouvez être supprimé d'un instant à l'autre sans avoir aucun recours. Bref, c'est toute la question de la gouvernance qui est transformée par le numérique et par Internet. Gouvernance aujourd'hui dominée par des entreprises américaines et qui utilise un algorithme que seul Google connaît. Deuxième transformation, le champ du savoir. Et pour poursuivre dans ce que j'ai esquissé tout de suite, le paradigme de l'enseignement supérieur. Paradigme, c'est ce qui va dire quelque chose de tous les autres champs de l'éducation. Mais c'est particulièrement fort et vrai dans le champ de l'enseignement supérieur des universités. Aujourd'hui, ce champ est en pleine crise, en pleine révolution. Or, nous le savons, c'est l'université qui forme les cadres de demain et donc qui façonne l'économie de demain. De plus, 40% des emplois aujourd'hui vont être automatisés dans les 10 à 20 ans qui viennent. Ça veut dire que le personnel va être de plus en plus qualifié. L'enjeu de la formation supérieure est donc considérable. Et un chiffre pour vous le faire sentir, la Chine a créé ces dernières années 30 millions de postes d'étudiants. Alors cet enseignement supérieur en crise, il coûte de plus en plus cher. Ceux qui le pratiquent ou qui sont intéressés par la question le savent. Les pouvoirs publics réduisent de plus en plus les budgets et s'amorce un processus de privatisation de l'université, processus qui s'accélère, mais qui pose un autre problème, qui pose le problème de l'accès aux études lié à l'argent. Aujourd'hui, il y a un phénomène massif d'endettement des étudiants, voire même de surendettement, et qui conduit plus de la moitié d'entre eux à abandonner les études. Dans ce contexte, Internet et les nouvelles technologies, et accessoirement l'université Domuni. C'est une petite parenthèse. Ces universités en ligne permettent à n'importe quel étudiant de n'importe quel coin de la planète, encore une fois, de s'inscrire à des cours à distance et d'obtenir un diplôme, à condition de travailler bien sûr, mais à un prix beaucoup plus démocratique, avec beaucoup plus de moyens et surtout avec des horaires flexibles. Ces universités en ligne ne sont pas la seule solution à la question, mais elles sont la marque qu'Internet induit de nouvelles manières de nous organiser. Le lieu d'affrontement du futur va être sur Internet et nous le sentons déjà dans le monde universitaire. Les universités en ligne viennent menacer les universités traditionnelles et les universités traditionnelles qui n'opèrent pas, qui ne sont pas capables d'opérer une mutation sur Internet, sont vouées progressivement à disparaître. Voici bien un lieu du nouveau rapport de force induit par Internet et le numérique. Qui aurait cru il y a encore 20 ans que le numérique allait bouleverser à ce point le paysage universitaire ? Un bouleversement parmi d'autres. Pour les enfants, pour les écoles primaires, les écoles secondaires, l'enjeu aussi est considérable, l'impact des nouvelles technologies sur l'éducation. Alors je ne prolongerai pas sur ce point, c'est simplement pour vous faire sentir ce matin encore ce secteur entier de l'humain qui est impacté, comme on dit en anglais, par l'Internet. Troisième conséquence très importante, celle peut-être qui vous est le plus familière, le champ de la communication. Aujourd'hui, Internet a révolutionné les communications, la mise en relation, et même si vos enfants déménagent au Japon, vous savez très bien, malgré les distances, que vous pouvez rester beaucoup plus facilement en relation qu'avant. Je connais des gens qui font des cafés par Internet, qui s'installent chacun avec une tasse de café de part et d'autre de l'écran et qui passent un bon moment de convivialité avec leurs proches, malgré les 6 000 ou 10 000 kilomètres qui parfois les séparent. Autre fossé dans la communication, c'est la séparation des langues, bien sûr. Et ce fossé est précisément en train de se résorber par Internet. D'où ma question dans le plan, est-ce un Babel nouveau ? Aujourd'hui, vous pouvez vous traduire ce que vous avez à dire dans une langue, dans n'importe quelle langue, pratiquement sur Internet, notamment avec Google Translate. J'avais à écrire un message en indonésien il y a une semaine et me voici bien embarrassée quand j'ai pensé à me traduire par Google Translate. Bien sûr, la langue est loin d'être pure, c'est encore perfectible, mais le message est passé et j'ai pu me faire comprendre de mon interlocuteur indonésien qui ne parlait pas un mot de français. Voilà bien une révolution de notre humanité. Le système de traduction s'améliore, on peut imaginer que ça va s'améliorer de plus en plus, et plus encore, Internet lui-même est, par essence, un protocole informatique unique qui rend possible les communications aux quatre coins du monde. Il y a donc un processus, et ça il faut bien le noter, d'unification progressive de l'humanité. Et je vous dis de le noter parce qu'on va y revenir justement dans la partie philosophique. Il y a une unité sans précédent depuis cette révolution, à partir de cette révolution numérique. Et cette unité n'est paradoxalement pas une uniformité. Il ne s'agit pas de parler tous la même langue. Au contraire, sur Internet, semble s'exacerber la diversité des langues, des cultures. Chaque personne peut prendre la parole, s'exprimer, se publier. Chaque région peut se faire connaître, affirmer son identité et son rayonnement est beaucoup plus considérable qu'avant l'heure d'Internet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette unité n'est pas un totalitarisme. C'est toujours ça le piège de l'unité, le danger de l'unité. C'est le totalitarisme, une seule langue figée. Comme à Babel, ils avaient une seule langue, un seul objectif, construire une tour. Aujourd'hui, la diversité est rendue possible. Elle est même favorisée par le média. Et on parle d'Internet comme d'un réseau sans tête, source d'hétérogénéité. Je me suis entraînée avant de venir. Il y a des forces qui seront à caractériser. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses, mais il y a des forces qui s'oppose à l'uniformisation sur Internet. Il y a une énorme diversification qui fait que chacun a accès, qui provient du fait que chacun a accès à ce langage nouveau pour exprimer ses particularités. Chacun peut faire un blog, et aujourd'hui plus de 7 millions de Français se sont dotés d'un blog. J'en ai ouvert un la semaine dernière, je vous inviterai à le visiter à la fin de cette conférence. Chacun peut prendre la parole. Le secteur de l'auto-édition, je le disais, explose. La création artistique est très largement favorisée par une diffusion immédiate. Et il n'est pas rare qu'un jeune artiste inconnu, en quelques minutes, en quelques jours, ait des millions d'auditeurs sur YouTube parce que simplement il a posté un morceau depuis sa chambre. Alors on voit des jeunes garçons avec des guitares, là, comme ça, qui ont un succès phénoménal. Avis aux amateurs. Voilà, c'était la partie phénoménologique, parce qu'il est très important de palper, de sentir ce monde nouveau qui est le nôtre, ce continent numérique qui est à aborder, et qui n'est pas sans poser des questions beaucoup plus profondes, fondamentales, que j'ai qualifiées de philosophiques. Comment penser ces phénomènes qui surgissent, ces usages de l'Internet, qui affectent politique, communication, intelligence, création ? J'ai retenu quatre questions. La première question, celle de l'intelligence collective, celle de l'identité numérique, celle du désir et de l'espérance, et nous essayerons de penser le cloud, le fameux nuage numérique, comme la nouvelle utopie. Et la question, enfin, de l'au-delà, Internet et l'éternité. Comment penser, comment parler de l'intelligence collective ? On a posé la question d'un langage unique. Nous pouvons aussi poser la question d'un esprit unique. Vous avez sur ce sujet un très bon livre du philosophe qu'on appelle le philosophe d'Internet, Pierre Lévy, L-E-V-Y. Est-ce que c'est moi qui parle quand je suis sur Internet ? Ou est-ce que c'est une parole qui parle en moi ? Est-ce que c'est moi qui pense ? Où est-ce qu'il y a une pensée qui me traverse et qui pense à travers moi ? Est-ce que mon esprit individuel existe ou est-ce qu'il y a un esprit collectif qui pense en moi ? Est-ce que ça pense en moi ? Dans cette perspective-là, vous le sentez, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de pensée personnelle. Freud parlait d'un inconscient collectif. Est-ce qu'Internet aujourd'hui, c'est cet inconscient collectif qui s'exprime sans véritable tête? Cette question n'est pas nouvelle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette question a opposé un philosophe musulman né à Cordoue en 1126, mort au Maroc en 1198, du nom d'Averroès. Disciple d'Aristote, il présente une idée qui m'a paru tout à fait appropriée pour penser aujourd'hui l'influence des médias et d'Internet sur notre propre manière de penser. Pour lui, cela pense en moi. Il y a un esprit collectif qui me traverse, un langage diffus. Et ce que je dis, ce n'est pas vraiment moi qui le dis. Pour Averroès, il y a un intellect unique et séparé, commun à tous les hommes qui pensent en moi quand je pense. Il y a un esprit du monde, et c'est l'esprit du monde qui pense en moi. Je ne vous dis pas cela pour qu'on approfondisse l'histoire et la pensée d'Averroès, simplement pour vous montrer que ces questions-là ne sont pas nouvelles. La question de l'intelligence collective n'est pas née il y a 5 ans, à partir du moment où le réseau s'est densifié. Et cette philosophie d'Averroès a trouvé un contradicteur de poids avec un certain Thomas d'Aquin, dominicain, qui insiste, à contrario, sur le caractère personnel de la pensée. Aujourd'hui, comment penser la question de l'intelligence artificielle posée par l'informatique? C'est tout le pan du numérique dans sa globalité, et Internet pose plus spécifiquement la question de l'intelligence collective. Ce qui m'a beaucoup surpris en préparant la conférence, c'est de découvrir que le numérique a pris naissance au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand les premiers informaticiens, prenant conscience du fiasco humaniste, de la déficience humaine dans ce phénomène de guerre mondiale, de la Shoah, on considérait que le robot allait venir remplacer l'homme qui n'était pas fiable. Et que le robot, lui, serait beaucoup plus fiable que l'homme, poserait des jugements et des choix beaucoup plus fiables, objectifs, dénués d'affect, de mal. Et donc nous sommes aujourd'hui dans ce prolongement de tous ces penseurs, de tous ces constructeurs, pour qui l'homme n'est pas précisément une réalité fiable. Et l'appareil, la machine, vient se substituer à lui. Le pendant de cette vision, de cette intelligence artificielle, de cette intelligence collective, c'est de comprendre qu'Internet est une mise en relation où chaque personne a sa place et peut contribuer au bien commun. Dans cette perspective, Internet est un réseau d'acteurs qui met en commun leur créativité personnelle, individuelle. L'année dernière, on a parlé ici même de la relation constitutive de la personne, et c'est bien dans cette dynamique-là que nous pouvons aussi penser l'intelligence collective, que nous pouvons penser le phénomène Internet. Il saute aux yeux qu'Internet est un moyen qui favorise de manière éminente la relation aux autres, qui favorise la relation entre le lointain et le prochain, entre l'un et le multiple. Bien sûr, le moyen peut être dévoyé, et vous le verrez jeudi. Il faut être attentif à tous les risques de manipulation, notamment des plus fragiles, des enfants. Mais c'est l'usage d'Internet qui est bon ou mauvais. Ce n'est pas l'outil en lui-même qui comporte le caractère malsain. Et selon Pierre Lévy, le philosophe dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur Internet, je le cite, « l'humanité se rencontre elle-même ». L'humanité se rencontre elle-même. Elle a accès à un savoir immense du passé, et il y a là une forme de récapitulation temporelle. Elle a accès aussi à des savoirs lointains, et il y a une forme de récapitulation géographique. Nous y reviendrons dans la partie théologique. Il y a là une forme de récapitulation globale, sous une seule tête. Et on peut déjà penser aux mots de saint Paul, « Anna, képhalésastaï, récapitulation dans le Christ. Il y a donc sur Internet des individus qui discutent entre eux. Il y a des individus qui entrent en relation et qui ont la possibilité de se donner, de créer ensemble. Hegel disait que Napoléon est l'esprit de l'Europe à cheval. Et Internet est-il devenu l'esprit du monde? C'est une question ouverte. En sorte que si moi, petit individu, je ne suis pas connecté à Internet, est-ce que je ne vis pas? Est-ce que je ne suis pas? Est-ce que la vraie vie est sur Internet? Faut-il s'y connecter, s'y brancher pour pouvoir respirer? Deuxième point philosophique, deuxième question, celle de l'identité, notamment de l'identité numérique. Et je voudrais prendre maintenant un exemple, une page Wikipédia. Je ne sais pas si vous lisez les pages Wikipédia. Il est maintenant d'usage dans les familles, dès qu'une question se pose, on va vite voir Wikipédia, ce qu'on dit Wikipédia, nous sommes tous abreuvés aux mêmes sources. Comment se construit une page Wikipédia? Prenons l'exemple des disciples d'un philosophe, par hasard, Emmanuel Lévinas. Comment construire une page sur Emmanuel Lévinas? L'article va être proposé par une série de contributeurs, ses disciples le plus souvent. Elle va être validée ensuite par les autres internautes. Vous pouvez tous intervenir pour pouvoir modifier, enrichir la page de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'encyclopédie collaborative. Et là où c'est très intéressant, c'est que sur Internet, aujourd'hui, l'identité se construit de cette manière-là, que vous soyez De Gaulle ou Borgoglio, que vous soyez Lévinas ou Claire-Marie Monet. Ce sont les autres qui vont définir, valider ce que vous êtes. Et c'est dans la mesure où vous êtes en relation avec les autres que se construit votre identité. C'est donc un lieu unique. Internet est devenu un lieu unique de création d'identité. Et c'est là qu'il y a un lieu analogue à notre foi chrétienne. Tu n'existes que par la relation. Ce qui se passe au fond sur Internet, c'est comme le processus stylisé à l'image de ce qui se passe dans la société et dans nos vies. C'est l'autre qui me fait être et qui me fait exister. Je suis définie par ce que dit l'autre, à mon endroit, et ce n'est pas sans nous mettre dans une certaine vulnérabilité. Il y a donc un phénomène de reconnaissance mutuelle exacerbée, qui est aussi un lieu de combat, un lieu d'affrontement. L'identité numérique dit en très gros, en très fort, ce qu'est l'identité humaine tout court. C'est comme s'il y avait eu un phénomène de catharsis, de purification. Dans Internet, vous ne pouvez pas échapper à cette vérité-là que l'homme est d'abord relationnel. Et tout comme dans la vie ordinaire, vous pouvez être supprimé d'Internet du jour au lendemain, comme je vous le disais tout à l'heure. Votre page Wikipédia peut disparaître et vous n'avez aucun moyen de recours. Cette violence-là fait aussi partie de la relation. Et elle n'est pas exempte d'Internet. Troisième point philosophique, le fameux cloud, le nuage numérique. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Le nuage numérique, c'est que vous envoyez quelque part, sur un nuage, le mot est symbolique, vos données, vos documents, et du coup, de n'importe quel endroit du monde, il vous suffit d'une simple connexion Internet et vous les retrouvez. Votre carte d'identité scannée, il vaut mieux éviter les comptes en banque, mais vous pouvez mettre les photos de vos petits-enfants. Et ainsi, vous êtes dans une forme de légèreté, vous n'avez pas besoin de transporter avec vous tout un tas de documents, vous avez un accès immédiat à ce nuage numérique. Et nous sommes maintenant sous un ciel numérique. De nuages, de cloud. Et ça m'a fait penser à l'idée d'utopie. Est-ce que le nuage numérique, le cloud, n'est pas la nouvelle utopie du XXIe siècle? Qu'est-ce que c'est qu'une utopie? Le mot, l'idée d'utopie est lancée au XVIe par un écrivain, Thomas More, qui est formé le mot est formé utopie, topos. Ça signifie aucun lieu ou alors le lieu du bonheur. Thomas More a écrit un livre qui s'appelle Utopia, dans lequel deux personnages dialoguent, le narrateur et un explorateur qui s'appelle Raphaël. Je vous passe les détails de la première partie. La première partie est consacrée à la description du monde tel qu'il est à l'époque de Thomas More, c'est-à-dire l'Angleterre noire du XVIe, peu attirante, on va dire. Et dans la seconde partie, Thomas More décrit Utopie, une île déserte, c'est-à-dire un lieu qui contraste précisément avec l'Angleterre terne, violente, sans espoir, qu'il avait décrit dans la première partie. Et alors que la première partie décrit des conflits sociaux très importants, une violence, l'île d'Utopie, au contraire, repose sur l'échange, la mise en commun des biens, des moyens de production, l'absence de recherche de rentabilité financière aux dépens des plus petits, des plus faibles. Bref, Utopie est l'exact opposé du monde connu de Thomas More. Utopie est pacifique, respectueux de tous, soucieux de tous, régulé par une vie morale collective avec des principes stricts, très rigoureusement appliqués. Et vous avez là l'émergence d'un humanisme très fort, un humanisme qui est imaginaire mais aussi réaliste. On a mis en place justement cette morale pour réguler. On ne fait pas fi de la violence des relations humaines, violence potentielle, et on condamne l'inacceptable inégalité des hommes. Aujourd'hui, parler d'une utopie, c'est justement désigner un désir inaccessible, un rêve impossible. Au XIXe et au XXe siècle, les doctrines politiques ont charrié des utopies, des grandes utopies qui se sont déplacées. Ce n'était plus l'île d'utopie, Utopia, mais c'était précisément les utopies révolutionnaires, le marxisme notamment, établir un système égalitaire pour tous à l'échelle du monde. Le rien, les prolétaires, le rien est appelé à devenir le tout. Et en filigrane des utopies, il y a toujours cette volonté d'établir ici et maintenant sur Terre un équivalent de ce que nous, on appelle le royaume. Aujourd'hui, l'utopie n'est plus un lieu à atteindre, une île, une référence localisée. C'est un objectif à notre portée. Il ne s'agit plus de construire dans le ciel, malgré le cloud, dans un ailleurs, dans un au-delà, mais il y a bien la convergence à moyen terme, à court terme même, de l'humanité. Et l'idée d'envoyer dans les nuages numériques les données, rendues accessibles de n'importe quel point de la planète et par tous, parce que vous pouvez partager votre nuage numérique avec d'autres, cette densification dont on a parlé tout à l'heure, cette unification sans totalité, c'est justement cette utopie rendue possible. Du moins, il y a cette idée-là en filigrane. Et quand je vous parlais tout de suite du fiasco humaniste qui avait conduit les informaticiens à penser la robotique, l'informatique, la cybernétique, pour répondre à la déficience humaine, c'est bien dans ce prolongement-là qu'il faut penser les développements tout récents du numérique. Une idée, une illusion peut-être, mais qui devient de plus en plus réelle. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes. Aujourd'hui, l'utopie s'est déplacée sur Internet comme le lieu de tous les possibles. Quand vous avez 17 ans, que vous postez une vidéo sur Internet avec une petite représentation théâtrale ou un morceau de musique et que vous êtes d'un coup relié à des millions d'auditeurs, le rêve est devenu possible. Potentiellement, tout est rassemblé, unifié et accessible par tous. Alors pour conclure, trois points d'ordre plus théologique qui sont que des pistes de réflexion, parce que vous le sentez, ce n'est pas des sujets formalisés, c'est des pistes de réflexion, parce que le phénomène lui-même est à ses tout commencements. Nous entrons dans l'ère du numérique. Ce n'est pas un état où nous sommes d'un coup d'un seul et que nous pourrions aujourd'hui penser. Nous le pensons à la mesure de son déploiement. Une lecture théologique du phénomène Internet, de l'homme numérique, est-elle possible ? Alors j'ai retenu trois points, récapitulation, parole et trinité, pensée Internet au prisme de la structure trinitaire du don. Quelques phrases, quelques versets de saint Paul, Éphésiens 1, 9, 10. Saint Paul écrit « Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ pour mener les temps à leur plénitude ». Récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celle de la terre. On vient de l'évoquer, cette récapitulation du savoir, sa densification, la densité aussi de la communication entre les hommes, entre en harmonie, en consonance avec cette vision qu'a saint Paul de l'accomplissement de l'histoire et de l'univers. Il nous dévoile ainsi les mystères de sa volonté pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Il y a ici une analogie, il ne s'agit pas de dire qu'Internet est la récapitulation dans le Christ, mais il y a là l'un de ces signes des temps qui permettent de comprendre ce qui se passe à un autre niveau. Deuxième piste théologique, la parole, le logos. Il n'est pas possible de travailler avec et par Internet sans la conviction profonde que tout homme a quelque chose à dire, que tout homme est apte à la parole. Et en toile de fond, il y a une confiance fondamentale dans l'intelligence humaine désirée par Dieu. La confiance profonde en l'homme repose déjà sur la confiance de Dieu en l'homme. Internet est un réseau de relations, non pas de relations automatiques. Derrière chaque site, derrière chaque forum, derrière chaque blog, il y a un humain. Et ça, c'est extrêmement important à se rappeler. Il ne s'agit pas simplement d'automatisme. Il y a une relation humaine à construire, en train de se construire. Il arrive parfois que dans l'université d'Aumunie, les étudiants, parce que l'université est numérique, oublient qu'il y a des professeurs qui corrigent les copies, que la correction peut prendre du temps, qu'elle peut être plus ou moins réussie. Il y a de l'humain, il y a de l'imperfection dans cet idéal de perfection. Internet est un nouveau monde qu'il ne s'agit pas simplement d'investir comme un média nouveau, comme on a pu investir la télévision ou la radio ou le téléphone. Internet est un nouveau monde où il faut considérer qu'une humanité nouvelle est en cours de construction et où chacun a son mot à dire, sa place à prendre. Il y a cette aptitude à la parole auquel les chrétiens sont très sensibles. Et provoquer la parole de l'autre, recevoir sa parole, la laisser exister, être son interlocuteur, on en parlait l'année dernière, c'est l'enjeu d'une humanité réussie. Les chrétiens sont donc particulièrement en consonance avec le monde numérique et avec l'Internet. Et troisièmement, penser Internet au prisme de la structure trinitaire du don. La formule est un peu abstraite, la réalité l'est beaucoup moins. Il y a sur Internet, par les nouveaux médias, la formation de communautés d'individus, en chemin, en route les uns avec les autres. Il y a une manière de se rejoindre, unique, de rejoindre celui qui est proche, mais aussi celui qui est lointain. Un enjeu de le respecter. Respecter l'autre pour ne pas le détruire, pour ne pas le consommer, pour ne pas le plagier. C'est-à-dire, en d'autres termes, de l'aimer. Et cette relation d'amour et d'amitié, d'unité dans la diversité, qu'est-elle? Sinon la vie même de notre Dieu, 3 et 1. Au fond, il s'agit de vivre Dieu, de vivre l'amour qui est Dieu. Et cette foi unique d'un Dieu en trois personnes, la foi chrétienne est en consonance avec ce monde nouveau. Dieu n'est pas un vieillard qui s'ennuie quelque part sur un nuage. Et il y a bien ici et maintenant, dans ce monde nouveau qui naît, dans ce monde numérique, une invitation à entrer dans la danse de la communication, dans cette fameuse pensée collective qui est résurrection et récapitulation de tout un passé et qui ouvre un avenir. Dans le phénomène d'Internet, il y a un souffle, un appel d'air, un esprit. C'est un outil, certes, mais un outil qui favorise éminemment ce qu'il y a de plus humain et qui favorise la récapitulation, l'échange, les solidarités, la créativité. Quelque chose aussi qui paraît menaçant parce que ça nous rassemble et ça nous rend si proches parfois que nous sommes vulnérables dans notre identité qui peut aussi être abîmée. Pour conclure, une question ouverte, quel est donc ce modèle de cette unité et de cette diversité ? De cette communication, de cette danse un peu folle. Où donc se trouve réalisée de manière réelle cette communication? Où est atteinte cette communication, cette reconnaissance mutuelle? Où donc est cette relation constitutive de l'autre, de moi, sinon dans le Dieu auquel je crois? 3 en 1, amour mutuel.